Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Potéon. Arnaud Potéon, bonjour.
Bonjour, bonjour chers amis de Radio Maria. Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques et Radio Maria, ça fait déjà 3 ans qu'elle travaille sur les questions de la relation du sport et de la foi. Radio Maria est à l'avant-garde de cette réflexion et je suis très heureux d'y contribuer très modestement. Et donc nous sommes à 100 jours de cet événement qui réjouit les cœurs, qui suscite aussi un peu d'inquiétude par rapport aux enjeux organisationnels. Et ce matin, chers amis de Radio Maria, j'aurais voulu essayer d'évoquer assez librement des paradoxes, des enrichissements quand on parle de foi et de religion. Alors la première question qu'on va se poser ensemble, c'est un petit parcours qu'on va faire, c'est comme une course de haies. La première question, c'est cette question, est-ce que le sport est une religion moderne? Et en tout cas, le sport est une réalité humaine, très humaine, ancestrale, très ancestrale, et qui a été un peu revalorisée par le baron de Coubertin, aidé par le père dominicain Didon, on en a beaucoup parlé à cette antenne, quand il a souhaité le renouveau des Jeux Olympiques à la fin du 19e siècle, inspiré par le développement du sport en Angleterre et puis cette volonté un peu de relever la jeunesse de France. Et le père Didon a été appelé au secours par le baron de Coubertin, qui était un helléniste, un esthète, un psychologue, et pour voir aussi cet apport chrétien et catholique sur le renouveau de cette réalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que le père Didon a dit au baron Pierre de Coubertin, allez-y, j'en serai, je vous bénis. Et l'Église a envoyé, elle a béni, elle a dit du bien d'une initiative qui allait essayer de valoriser la patte humaine et l'humanité de nos concitoyens. Et Pierre de Coubertin était vraiment mu par une volonté farouche, un esprit assez esthète, pour relancer ces Jeux Olympiques modernes, tout en mettant en avant toujours cette dimension amateur du sport. Amateur, c'est celui qui aime. Et le pape François, quand il évoque le sport, le développement du sport business, aussi l'hubris sportive, il dit souvent « retrouvons cet esprit amateur de celui qui aime » par rapport aux enjeux d'hyper-professionnalisation qui supposent de convoquer les médias, l'audience et beaucoup, beaucoup d'argent. Et la vision de Coubertin, c'était vraiment, un, de célébrer l'homme, la personne humaine, donc c'est aussi l'occasion d'une réflexion anthropologique, qui sommes-nous dans le sport, corps, âme, esprit, et puis de mettre en avant le langage humain, notre relation interpersonnelle, dans cette relation de gratuité. Voilà. Et avec derrière une réflexion sur l'enracinement, corps, âme, esprit, et puis notre enracinement, nous venons d'une terre, et c'est ce dialogue entre les nations. Alors on évoque une dimension cathartique par rapport aux guerres, c'est-à-dire que toute cette énergie belliqueuse qu'il y a entre les nations, finalement, elle était déviée vers ce terrain de l'affrontement pacifique qui était un terrain sportif. Et on va peut-être le retrouver, je l'espère, dans le cadre de cette volonté, en tout cas, d'avoir une trêve olympique, c'est-à-dire qu'une pause entre les conflits aujourd'hui qui minent le monde. Et alors cette initiative, on est à la fin du 19e siècle, les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en 1896. Cette initiative, elle suscita cette adhésion du père Didon. Père Didon qui avait un caractère assez fort, qui pourfendait une forme d'intellectualisme catholique, qui disait chez ces catholiques... Profondait aussi une dimension un peu bourgeoise. Il y avait pour lui une forme de névrose, en tout cas dans le mépris du corps et de la camaraderie qu'on retrouvait dans le sport. Et cette célébration sportive, pour être belle, elle devait convoquer une forme de liturgie autour d'un jeu, autour de règles, autour d'un affrontement codifié. Et Coubertin et Didon voyaient le sport comme une activité unifiante qui permettrait la paix, la fierté, la concorde entre les peuples. Et le succès planétaire des Jeux Olympiques a permis de relier en quelque sorte les peuples, un peu comme une religion au sens étymologique du terme, vient relier, religuérer, et d'où vient le mot ligament. On en a beaucoup parlé ensemble. L'homme a besoin de rites et de rythme. Il a aussi besoin de transcendance. Et le sport moderne, et ses apôtres l'ont compris, le sport moderne aujourd'hui repose sur 4 leviers, 4 réalités très puissantes qui mobilisent les foules, qui en font un peu une religion presque païenne. Le premier levier, c'est l'identité. Le deuxième, l'émotion. Et le troisième, la vitesse et l'incertitude. La vitesse et l'incertitude, ça caractérise un peu notre post-modernité. Il faut que tout aille très très vite et il faut, pour tenir les gens en haleine, pour créer du suspense, eh bien, il faut ne pas connaître l'issue du scénario, en quelque sorte. Et ce cocktail, identité, on voit aujourd'hui l'importance du levier identitaire. Bah, l'émotion, souvent l'émotion est liée à l'identité. Hein. On vibre devant notre diocèse, notre paroisse, notre ville, nos couleurs nationales. Identité, émotion, vitesse, eh bien, il y a de plus en plus de compétition. Et puis incertitude, on ne connaît pas l'issue de ce scénario, de cette dramaturgie qui va mobiliser en particulier ce levier identitaire et émotionnel. Et tout cela, tout ce cocktail est devenu finalement un carburant médiatique très puissant. Et aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et les paris, et puis avec toute cette propagande marketing, ça en fait bah, une forme un peu de, ouais, c'est ça, de religion, en tout cas de dérivatif, qui va capturer, même peut-être hypnotiser une bonne partie de la population voilà, mondiale. Et tout à l'heure, on évoquera, hein, c'est qu'avec le sport, on est toujours sur la brèche entre le vice et la vertu. Alors si on est un peu ronchon et qu'on voit souvent un peu le verre à moitié vide, eh ben, on va parler voilà, de religion sans Dieu, complètement horizontale, voire de propagande abêtissante, etc. Si on voit plutôt le verre à moitié plein, on dira bah, aujourd'hui, les gens qui pratiquent le sport, finalement, vivre une expérience un peu nomade dans laquelle ils vont unifier leur personne. Et puis, dans la pratique sportive concrète, ça va convoquer des vertus humaines intéressantes comme le dépassement de soi, la persévérance, cette force de célébrer notre dignité dans l'effort. Tout ça, on en a parlé très largement. Et puis, je vais un peu le répéter tout à l'heure dans cette réflexion. Donc, cette question qui se pose, le sport est-il une religion ? Moi, je pense que le sport n'est pas une religion. C'est une magnifique activité humaine, très humaine, trop humaine. C'est pour ça qu'on est sur la brèche vice-vertu, on creuse la patte humaine qui vient convoquer notre personne, corps, âme et esprit. Peut-être que le sport aimerait être une religion, remplacer la religion. On voit aujourd'hui que nos églises sont un peu vides d'avoir été trop pleines et que c'est comme si toutes ces personnes qui peuplaient nos églises se sont déversées dans les cohortes de coureurs. À quoi pensent les joggeurs du dimanche, ils penchent en avant, disait le chanteur Miossec. Ces gens sont venus courir, plus ils passent du temps devant les écrans, plus ils vont courir et ils vont participer à des marathons. La population des gens qui participent à des marathons, à des courses, a augmenté de 500% en moins de 10 ans. Aujourd'hui, il y a près de 6 à 7 millions de personnes qui courent toutes les semaines. Et puis, cette question de Miossec, de ce chanteur, on avait écouté, hein, je vous invite à écouter cette chanson, à quoi pensent les joggeurs du dimanche ? À quoi pensent-ils ? Ça vient creuser notre humanité. Est-ce que c'est une fuite ? Est-ce que c'est une quête ? Cette question de ces gens qui aujourd'hui, à force de rester sédentaires devant des écrans et des réseaux sociaux, ont besoin de courir, mais après quoi courent-ils ? Voilà, c'est cette question. Et le sport, je pense, aimerait, pour en tout cas ses grands professeurs, aimerait être une religion, mais il me semble qu'il peine à trouver le sacré et la transcendance. Le sport est quand même une réalité assez horizontale, il convoque les vertus, les vices de notre humanité, et il devient aussi le reflet, le révélateur et peut-être aussi un laboratoire pour notre humanité. C'est le dépassement de soi, physique, existentiel, mais la religion, et en particulier la religion chrétienne, qui vient creuser cette dimension corporelle très forte. On a un Dieu qui, par amour pour nous, s'est fait homme. Là, ce matin, en faisant du rameur, j'aime beaucoup ramer, en regardant The Chosen, et on voit cette dimension très humaine du Christ qui transpire, qui entraîne ses disciples avec beaucoup, beaucoup d'humour, de légèreté, cet humour très humain, ce rire, cette tendresse. Et ça, c'est le propre, je crois, du christianisme qui épouse notre humanité pour mieux la diviniser, la rapprocher de son créateur. Le sport, c'est le dépassement de soi physique, existentiel, mais la religion, et en particulier le christianisme, me semble, est le dépassement du dépassement. C'est comme un peu une prise d'élan profonde. Vous voyez, pour aller courir très loin, il va falloir aller chercher ses appuis encore plus loin encore. Et la religion va permettre d'aller creuser plus profond, d'aller chercher plus loin sa prise d'appui, sa prise d'élan pour aller encore plus loin vers une destination plus élevée. Voilà, c'était la petite introduction. Ensuite, je voudrais cheminer avec vous sur ce parallèle entre les champions et les saints. aujourd'hui, les champions sont devenus des idoles. Avant, les idoles, ceux qui faisaient les publicités pour les shampoings, les dentifrices ou bien les produits de luxe, c'était plutôt les acteurs et les chanteurs, qui étaient un peu des hommes sandwich malgré eux. Mais aujourd'hui, on voit que les champions de sport sont devenus ces hommes sandwich, sont devenus ces vedettes vers qui on veut à qui on veut ressembler et vers qui on voudrait pouvoir cheminer par rapport à tous les codes sociaux, par rapport à toutes le glamour qu'ils peuvent diffuser autour d'eux. Mais je pense que quelque part, pour avoir côtoyé quelques sportifs de haut niveau, j'ose dire, et je l'assume assez, qu'ils sont aussi finalement dans leur art. On parle, y a une dimension artistique, ils sont devenus des artistes. Et par aussi la profondeur de leur humanité. Je pense vraiment aux champions, à ceux qui ont ce petit plus qui est de génie. Vous savez, on dit souvent qu'un champion va travailler une technique, et la technique, on va la travailler de façon un peu mimétique. C'est un peu comme une vie de vertu. Et puis on va s'inspirer de ce qu'ont fait les gens avant nous. Et il y a un moment donné où, dans une situation donnée, il va y avoir cette espèce d'inspiration absolument géniale pour nous chrétiens. On est convaincu que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous, la grâce aussi. Et puis le champion, c'est un peu son identité. Ça sera son histoire qui va se rassembler dans un geste complètement inédit qu'il arrivera à offrir finalement à l'humanité. Et on le voit souvent à l'entraînement, davantage à l'entraînement qu'en match, parce qu'en match, mais ça arrive en match où on voit des gestes absolument incroyables, des retournements de situation qui sont stupéfiants. Et là, on touche vraiment, vraiment au génie. Et il y a quelques champions comme ça qui émergent et qui durent. Le champion, il dure. C'est pas juste une comète comme ça qui va nous illuminer. C'est quelqu'un qui, non seulement, aura cette audace dans l'attaque, cette capacité à attaquer les situations avec virtuosité, ce mélange de maîtrise technique et de vitesse, mais il saura durer, c'est-à-dire qu'il travaillera en permanence et puis il ne mettra pas toute son énergie non plus dans l'instant. Il y aura quelque chose qui va se déployer dans le temps plus long. Et donc oui, moi j'ose le dire, je pense que les grands champions sont des artistes et on l'a vu la semaine dernière en quart de finale de Ligue des Champions, quand Kylian Mbappé démarre, c'est toute une ville, c'est tout un pays qui retient son souffle. Le champion, je crois, est un être à part, un peu comme les religieux ou les personnes un peu consacrées. Vous savez, le sacré, c'est quoi ? C'est un espace séparé. C'est la clôture d'un monastère, c'est le cœur d'une église, c'est un espace séparé qui obéit à d'autres règles. Et le champion, il a choisi très tôt de renoncer aux activités de ses camarades pour embrasser un destin singulier. Il est protégé à l'entraînement, protégé dans une vie d'ascèse. L'étymologie d'ascèse et d'ascète est la même, c'est du renoncement pour un bien supérieur, ce qui suppose une forme parfois de sécheresse, des activités très singulières qu'il fait dans un but bien précis. Donc il est protégé, ensuite il sera exposé, mobilisé tout entier, ce qui parfois le rend, entre guillemets, un peu obsessionnel. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de saints qui étaient obsédés par la question non seulement de leur salut, mais du salut de l'humanité et de leur communauté, obsédés par cette volonté d'être saint et de se rapprocher du Christ. Et en tout cas, le saint comme le champion est quelqu'un qui ne sera pas dispersé, qui va suivre une voie, sa voie qui sera la sienne, et il ne va pas en dévier. Une fois par semaine, il va revêtir ses habits de lumière pour se préparer à affronter l'adversaire. L'adversaire, c'est souvent lui-même. L'adversaire, le mal, c'est pas ce qui entre en nous, c'est ce qui sort de nous-mêmes. Et il va s'exposer quelque part, il va à la liesse populaire ou à la fureur des fidèles, assemblés dans les travées des stades. Il sait finaliser sa souffrance pour un but supérieur. Sa souffrance, ça va être la souffrance physique, la souffrance psychologique née des renoncements, née de tous ces petits sacrifices qui vont un peu le couper du commun des mortels. Et puis ce but supérieur, il va le poursuivre et ça va le déranger, ça va aussi le ronger chaque jour. Mais il est tendu vers cet objectif, normalement, non pas d'être le meilleur, mais d'être meilleur. La différence peut-être entre le champion et le saint, c'est intéressant, c'est que Le saint, chaque jour, cherchera à être meilleur, à faire rentrer cette part de divin en lui. Souvent, aujourd'hui, avec la mécanique du sport business, eh bien, le champion cherchera à être le meilleur. Et ce qui permet à un grand sportif d'être un champion, ça va être cette part, cette petite part de liberté intérieure, de gratuité, qui fait qu'il deviendra le meilleur en cherchant à être meilleur. Voilà, c'est-à-dire non pas en cherchant à écraser, c'est intéressant, c'est une question vraiment d'énergie qui peut nous aider aussi dans toute la journée, rester sur notre couloir, ne pas chercher à déstabiliser l'adversaire qui est celui qui me fait grandir, mais à chercher à creuser plus profond, à mieux analyser avec beaucoup de bienveillance les situations pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donner le meilleur de nous-mêmes, c'est un vocabulaire qu'on entend beaucoup dans les stades, mais nous, le matin, quand on fait notre temps de prière, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on se dit « Seigneur, donne-moi ta force pour qu'aujourd'hui je donne le meilleur de moi-même ». Le meilleur de moi-même, c'est toi. Le meilleur de moi-même, c'est toi le Seigneur. Donc, est-ce que je vais poser des petits gestes missionnaires ? Et puis, les gestes que je vais poser, et on dit souvent à cette antenne que le produit fini du sport, c'est un geste juste, ces gestes que je vais poser, est-ce que je vais en faire des petits chefs-d'œuvre ? Des petits chefs-d'œuvre qui seront les miroirs de ta grandeur et de ta beauté, Seigneur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des parallèles qui sont très beaux entre les champions et les saints. Dans les entrailles des stades anglais, avant de pénétrer sur la pelouse, les joueurs traversent un couloir. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à Arsenal, un club, un couloir décoré où on voit les grands portraits des anciens joueurs qui arborent, qui portent avec beaucoup de fierté, avec la tunique du club. On évoquait tout à l'heure l'identité et l'émotion. La tunique, le maillot du club, celui aussi que portent ces dizaines de milliers de supporters dans les travées qui chantent des chants qui seraient quasiment des hymnes pour rendre grâce pour les champions, rendre grâce pour la joie d'être assemblés. Et c'est ce qui va unir depuis plusieurs décennies le cœur de la ville. L'entraîneur Arsène Wenger évoquait que l'attachement à un club se vit comme un rite, quasiment comme un rite de baptême. Est-ce que quand on regarde la ferveur des stades, on pourrait s'inspirer de nos paroisses? Voilà, l'attachement à notre stade serait l'attachement à notre clocher. Et puis, ce souvenir, cette densité du souvenir de nos assemblées quand on chante d'un seul cœur. Et puis c'est voilà, ces prêtres qu'on accueille, qui viennent enrichir l'histoire de la paroisse, ces fidèles, ces initiatives, ces fêtes paroissiales. On pourrait faire de façon suggestive et je pense inspirante, faire un vrai parallèle entre ce qu'on peut vivre dans un club sportif semi-professionnel ou professionnel et puis dans nos paroisses. Les champions, voilà, ils savent qu'ils sont dépositaires de quelque chose qui les dépasse. Ils sentent ce regard, cette fraternité. Ils savent qu'ils mettent leurs pas dans les pas de ceux qui les ont devancés, et un peu comme la communion des saints qui nous porte et nous supporte. Les descendants de cette glorieuse lignée, avant de rentrer sur le stade, voilà, ils sont dans le vestiaire, ils sentent, il y a la lumière verte qui va éclairer la pelouse, ils sentent la clameur des supporters, et avant de rentrer sur le stade en portant le maillot de leur équipe qui fait écho au maillot de ces champions, de ces anciennes gloires du club dont ils voient les portraits dans ce couloir, ils ont cette question qui introspecte et qui les ébranle. Do you want to be remembered? Est-ce que tu veux que l'on se souvienne de toi? Est-ce que tu veux marquer l'histoire? Est-ce que tu veux donner le meilleur de toi-même pour inspirer les autres? Et je me souviens de Sainte-Thérèse de Lisieux, qui était, on peut dire, une jeune athlète de 20 ans, recluse dans son camp d'entraînement, qui est son Carmel, n'avait qu'une obsession, celle d'être sainte. Non pas pour être honorée ou reconnue, mais juste d'être aimée par l'époux, parce qu'elle s'est donnée par amour dans la confiance, et pour diffuser dans les âmes cette confiance d'être aimée, reconnue et de servir l'époux. Et les saints eux-mêmes sont un peu comme des obsessionnels de l'amour, eux aussi. Ils se livrent non seulement peut-être par ego, j'ai évoqué cette dimension un peu obsessionnelle, mais aussi pour le bonheur des autres. Ils chutent, les saints chutent, bien sûr. Et récemment, je lisais un texte assez connu de Bernanos sur les saints. Et je pense que la clé d'entrée pour comprendre les saints ne devrait pas être les vertus, les qualités. On a fait trop un peu de vernis à géographique, mais les défauts. on devrait mieux connaître les saints à partir de leurs défauts pour permettre une identification. Parce que le saint, c'est celui qui chute, mais c'est celui qui se relève plus vite. Il est comme happé par la miséricorde de Dieu. Il est happé par cet appétit de vivre et de transformer le monde, de donner le Christ au monde sans se repaître sur son péché et sa misère. C'est comme s'il avait un ego plus faible que les autres pour dire « Seigneur, je te laisse être le guide de ma vie et je me relève et je repars ». Il a cette énergie vitale pour repartir, pour transformer le monde et se faire l'instrument de la grâce dans les âmes. Voilà, c'est ça le saint. Donc c'est le joueur qui chute et qui, très vite, ne paralyse pas le jeu pour relever et redonner du temps de jeu et faire en sorte que la circulation d'amour ou la circulation de balles puisse se déployer à nouveau. C'est ça un saint, voilà, pour utiliser la métaphore sportive. Et ils se relèvent plus vite. Voilà, ils sont aspirés par cette joie de la miséricorde qui est mendiée et qui est ensuite reçue en abondance parce qu'elle est mendiée en abondance. Ils ne veulent pas être les meilleurs, ils veulent juste être meilleurs. Ils n'aspirent jamais à devenir des idoles, les saints. Ils veulent juste être des tabernacles vivants qui portent en eux la lumière et donc comme des ostensoirs qui vont illuminer leurs équipiers. Voilà. Le saint, il est pas, son regard n'est pas tendu vers son ego. Il ne va pas se regarder jouer, mais il va offrir sa vie et en offrande, voilà, pour se laisser transparent de l'amour de Dieu. Voilà ce que je voulais un peu vous partager sur les champions et les saints. Et maintenant, je vais rester un peu dans le stade et on va continuer cette comparaison entre le sport et la religion pour évoquer ce parallèle entre les stades et les églises. On voit les supporters, quand ils rentrent dans les stades, souvent, ils sont endimanchés, ils se sont pressés pour ne pas arriver en retard. Avec ferveur, tous ces supporters convergent vers un point de lumière qui jaillit dans l'obscurité. Pendant les vacances, là, je reviens de Bretagne, j'ai eu l'occasion d'aller à Brest. Ce stade, Brest était deuxième du championnat, ils sont devenus troisième et on voit une ferveur, une fierté populaire de ces visages, de tous ces supporters heureux de ce club avec une identité très forte qui leur donne tant de joie. Les supporters chantent déjà en progressant vers le stade à gorge déployée, un peu comme des pèlerins impatients de rallier le bivouac. Les fidèles attendent depuis bientôt une heure, bercés par leur chant et le récit des derniers exploits de leur champion. Très vite, dans le stade de rugby, on a ça, ils vont s'écarter pour laisser passer les officiants qui sortent du car. Et oui, il y a des accueils de champions. Et les officiants, qui sont les joueurs, vont descendre du car et ils vont fendre la foule, tel Moïse traversant la mer Rouge. Ils sont concentrés, le regard tendu vers un au-delà qui les absorbe. La compétition sportive et le don d'eux-mêmes tout à l'heure devant leur public. Les champions iront dans cet espace qui leur est réservé près du sanctuaire. Certains l'appellent sacristie dans nos églises, d'autres vestiaires. On voit le parallèle entre la sacristie et le vestiaire, espace sacré réservé, coupé du reste et réservé uniquement aux officiants, à ceux qui en sont dignes. On va préparer ceux qui ont accès et ceux qui vont servir un peu ces officiants. Les plus jeunes qui servent les officiants dans les églises, on leur met le cordon pour servir d'acolyte et participer au déploiement de la liturgie. Les autres, on peut faire encore ce parallèle, ce sont les ramasseurs de balles, pour redonner de la vie au jeu, permettre toujours, telle une liturgie aussi, de redonner de la vie au jeu. Et le coup d'envoi va approcher. Il est temps d'entrer en procession et d'ouvrir la célébration. La liturgie est codifiée, elle s'y déploie, unissant les fidèles et les prêtres dans cette chorégraphie que seuls, finalement, les initiés comprennent. Le sport va dévoiler ce scénario inattendu comme la messe qui vient aussi, à travers ses rites immuables, rendre nouveau, vivant et actuel le sacrifice du Christ pour le salut du monde. Et c'est là la limite, on va l'évoquer, c'est que de la même façon que on ne connaît pas la liturgie sportive et la compétition, on n'en connaît pas l'issue, la liturgie de la messe, l'issue, on la connaît, mais elle est à chaque fois nouvelle. C'est-à-dire que chaque jour, de façon unique, le Christ va se rendre présent dans la Sainte Eucharistie. Donc l'issue, c'est de réjouir le cœur des fidèles, mais chaque fois, ce sera ce scénario, finalement, ce miracle unique qui aura une résidence chaque fois unique dans notre cœur, parce qu'il rejoint notre histoire, notre mémoire, nos blessures, nos aspirations du moment. Ce n'est pas la mémoire d'un événement, c'est l'actualisation d'un sacrifice qui se fait ici et maintenant, hic et nunc, comme un match de foot. Ce que je dis, c'est pas sacrilège, mais c'est pour montrer que c'est quelque chose de totalement nouveau qui, par amour, se déploie et auquel nous sommes convoqués. Donc, nous ne devons pas être spectateurs, mais on est profondément témoins et acteurs de ce miracle qui, chaque jour, chaque dimanche dans nos communautés, va s'actualiser et va revenir finalement de façon nouvelle et inédite et unique, renouveler nos vies. Voilà, l'homme est au cœur de tout cela, au milieu, dans le stade, au milieu de ce rond central, et le stade, un peu, et ça c'est encore une limite, le stade aujourd'hui est centré sur l'homme. Et on voit que dans le rond central, on voit des hommes, et la différence de perspective entre ce stade et une église, c'est que l'église n'est pas centrée sur le nombril de l'homme, mais elle est tournée vers l'Orient. Elle est centrée vers l'Est, là où le soleil se lève vers le signe et la manifestation de la résurrection du cosmos, ce qui donne vie et celui qui éclaire. Le stade, le centre du stade, c'est le nombril de l'homme. L'église, au contraire, est une embarcation tournée vers ce soleil levant qui accueille la lumière, qui va éclairer les vitraux et qui va transformer nos cœurs. Le mouvement, il est orienté, c'est-à-dire tendu vers l'Orient. C'est intéressant parce que quand on parle d'orientation, même de jeûne, ça veut dire les tendre vers l'Orient, là où le soleil se lève, là où la lumière vient, le lieu de la résurrection et du soleil levant. La nef d'une église est une colonne verticale qui va soutenir le transept, ce membre qui embrasse le cœur et comme la tête, et le visage, c'est ce regard qui lie et qui relie. Le peuple est tourné ensemble. Il célèbre son créateur et sauveur et le peuple ne se célèbre pas. C'est toute cette différence de perspective. Il ne se célèbre pas, il est tourné et il reçoit tout de Dieu à travers le Christ qui nous rejoint dans notre humanité. Le peuple se sait petit et serviteur, il est à genoux devant quelqu'un de plus grand que lui et il reçoit. Alors que le stade, vous voyez, si on voit comment est construit un stade, c'est comme une arène. Et il y a au centre l'homme. Donc on est dans une perspective non pas christocentrée et théocentrée, mais très 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 humaine. Et c'est là qu'on peut toucher aussi l'humanisme athée. Et aujourd'hui, j'évoquais l'incertitude de la vitesse. Un stade, je regarde le Stade de France, c'est comme si c'était une toupie et qui va tourner de plus en plus vite. Et cette toupie va expulser par ce mouvement centrifuge, finalement, les plus faibles. C'est comme une métaphore de notre post-modernité qui va de plus en plus vite avec ce mélange d'incertitude d'humanité. Et donc le sport, dans cette quête, finalement, cette volonté de célébrer l'humanité, peut aussi être dans quelque chose de parfaitement idolâtre, païen, parce qu'il n'aura pas compris. Et c'est là qu'il n'aura pas creusé plus profond ce que j'évoquais dans le dépassement du dépassement. C'est que la force de l'homme, c'est reconnaître à un moment donné, en creusant, qu'il accède à une dimension qui le dépasse. Et cette dimension, c'est la transcendance et c'est le fait qu'il reçoit la vie d'un plus grand que lui. Et il ne peut pas devenir Dieu. Et c'est ça qui est passionnant dans le sport. C'est que c'est la grandeur et la misère du sport. Soit il va rester dans une forme de misère sans reconnaître ce plus grand que lui, qu'en travaillant le cœur de l'homme, il va rester à une étape de l'ego, du contrôle, de l'hubris. Et puis alors que quand on creuse, et c'est Jean-Paul II qui nous disait « Ouvrez grand les portes au Christ, lui seul connaît le cœur de l'homme et beaucoup » de sportifs dans leur souffrance, dans leur renoncement, dans leur grandeur, savent qu'ils ne sont que les serviteurs d'une réalité qui les dépasse, qui est beaucoup plus grande qu'eux-mêmes. Voilà, donc voilà ce petit parallèle entre nos stades et les églises. Et je vous propose de faire peut-être une petite pause pour savoir si en régie nous avons reçu quelques sollicitations par SMS pour rebondir avec vous et sinon je repars pour un nouveau run, pour une nouvelle course avec vous pour évoquer ce lien entre vie sportive et vie chrétienne de façon plus existentielle au quotidien dans nos vies.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Boutéon. Notre thème d'aujourd'hui, sport et foi, paradoxe et enrichissement. Arnaud Boutéon, nous avons un message de Marie Lourdes qui écrit un remerciement. Bonjour, merci pour votre émission, surtout ce parallèle entre l'Église et le stade. Soyez bénis, c'est signé Marie Lourdes.
Merci Marie Lourdes, je continue cette réflexion et ces parallèles. La première petite balise, ça va être autour de la question du repérage. Avant une descente olympique, par exemple de slalom géant, les skieurs ont cette possibilité d'un rapide repérage pour évaluer la place des piquets et la qualité de l'enneigement. Dans les grandes courses hippiques, le jockey, avant par exemple un steeplechase, une course de haies, se promène sur le champ de course pour inspecter une dernière fois les obstacles. Les skieurs dans les contre-la-montre aussi, souvent la veille, quand il y a une journée de repos, peuvent aussi faire ce repérage. Et nous sommes finalement dans nos vies chrétiennes, un peu comme tous ces athlètes, qui pouvons préparer le lendemain de nos vies, lorsque la journée s'annonce parfois dense et inconfortable. Alors la petite clé, un peu comme les sportifs, ça serait de nous lever plus tôt, dans le silence du jour naissant. Ce que je n'ai pas fait ce matin, parce que j'ai déjà subi deux éléments d'activité de ma journée que je n'avais pas prévu, donc j'ai pas eu le temps de les confier à Dieu et de les prévisualiser comme les champions vont prévisualiser les haies, les obstacles, les tournants, etc. Mais en tout cas, se lever plus tôt, et puis quand on est bien organisé, pas comme moi, se mettre en présence de Dieu et lui confier chaque moment à venir, tel piquet, tel obstacle, tel adversaire. Et vous savez, dans ma vision, l'adversaire, c'est pas l'ennemi. L'adversaire, c'est celui qui me fait grandir, c'est celui devant lequel je vais devoir offrir le meilleur de moi-même pour que lui-même soit le meilleur, pour permettre d'élever ce niveau de jeu. Et c'est ça toute la grandeur d'une vraie adversité sportive. On préfère toujours concourir contre un meilleur que soi pour progresser, plutôt que entre guillemets d'écraser ou se défouler sur quelqu'un qui est moins armé et un peu plus faible. Donc l'adversaire devient quelque part une forme d'équipier pour offrir un niveau de jeu intéressant et qui va venir transformer le monde et offrir de la joie dans le cœur, dans le nôtre et dans celui des personnes que nous rencontrons. Notre choix, et c'est vraiment une question de choix, de volonté, et puis c'est de consacrer ce temps le matin pour commencer à prévisualiser, nous préparer à être juste et bon dans les gestes que nous poserons. Vous savez, finalité du sport, ce geste ajusté, ni trop tôt ni trop tard. Et ces gestes doivent être préparés, un peu, voilà, technicisés, et puis au moment, à l'instant T, quand on devra produire ce geste, eh bien, il y aura notre inspiration. Voilà, on convoque l'Esprit Saint, la grâce nous transporte, mais il y a cette volonté humaine et puis notre talent pour poser ces gestes ajustés et compétents et témoigner que le Seigneur fait de grandes choses en nos vies et dans nos pauvres carcasses. Voilà, c'est cet petit appel à poser ces petits moments pour repérer. Premièrement, repérage. La deuxième réflexion que je voulais vous livrer, c'est l'importance de la mise au vert. Alors, ça va un peu rebondir sur le repérage. Avant les phases finales d'une compétition, les grandes équipes vont en quelque sorte s'exfiltrer de leur environnement bouillonnant avec énormément de tentations et de sollicitations pour fuir le bruit et se concentrer sur la préparation de la compétition. Ça s'appelle, dans le jargon sportif, une mise au vert. Une mise au vert, plus de silence, plus de repos et cette volonté de revenir à l'essentiel, aux fondamentaux. Et finalement, la mise au vert, c'est quoi? C'est comme un retour à la nature, à sa condition de plante animée pour y travailler la grâce de l'apprentissage de nos techniques sportives, de nos fondamentaux. Et les retraites, ce sont finalement des mises au vert. On quitte les sollicitations, les bouillonnements, les messages sur nos messageries informatiques et instantanées pour revenir à quelque chose de plus lent, à l'essentiel, loin des artifices du monde, vers nos premières conditions finalement de stagiaire qui mendie l'amour de Dieu pour grandir et faire grandir. Et c'est là qu'on apprend le mieux. Donc, premièrement, repérage. Deuxièmement, importance de la mise au vert. Et la mise au vert, elle se fait dans ces petits moments de silence, le matin, C'est une sorte de mise au vert symbolique. Et puis la mise au vert physique, la vraie retraite ou la récollection, moi j'invite à le faire une à deux fois par an, précisément pour mieux repartir et mieux servir le monde qu'il nous est donné de transformer. Donc finalement, on a ça de commun avec les champions et ce besoin pour donner le meilleur de nous-mêmes, de nous préparer dans un espace et dans une spatialité, dans une temporalité qui est autre. Et enfin, troisième chose, toujours un peu de complémentaire entre la vie de foi et la vie sportive, c'est l'analyse vidéo et les débriefings d'après-match. Après les compétitions sportives, avec quand il y a un fort enjeu, on le voit souvent après les tournois et Coupe du Monde ou bien tournoi destination, on le voit souvent dans le rugby, l'entraîneur et le staff vont rassembler les joueurs qui sont exténués pour revisionner ensemble et décrypter les séances de jeu les plus sensibles du match. C'est un moment de vérité qui révèle et qui va relever finalement les manquements et qui va identifier les causes de ces manquements. Des lacunes dans le placement, dans la vision, dans la tonicité physique, dans l'altruisme. Voilà. Et on va observer, on va décrypter une action et on va regarder comment s'est positionné l'adversaire, comment nous on est positionné, ce qu'on a réalisé. Et là, on va voir que y a eu des bugs. Ça, on n'a pas été bon. Et cette révélation, finalement, est souvent incontestable et elle permet de faire quoi ? De réparer pour le match suivant. Le débriefing est aussi l'occasion, et ça c'est intéressant, et souvent on l'oublie, c'est de décortiquer les belles actions. Les belles actions qui ont mobilisé notre ingéniosité, notre créativité, notre tonus musculaire, physique, pour finalement offrir l'essai ou bien le but. Et le débriefing, c'est l'occasion, en décortiquant ces belles actions, de la célébrer et puis surtout de la reproduire. Et bien finalement, dans la vie chrétienne, on a quelque chose qu'on oublie souvent, qui s'appelle l'examen de conscience. L'examen de conscience, c'est l'analyse vidéo, le débriefing tactique de nos vies, où on se met devant, dans le silence, mise au vert, en retrait, et puis on va fermer les yeux et on va repenser à tous les mouvements, les moments de notre vie, les moments où on n'a pas été bon, on a subi les événements, on a été en retrait, où on a été trop zélé, trop maladroit. Et puis on va se dire, Seigneur, comment est-ce que demain je peux réparer ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été bon ? Qu'est-ce qui fait que peut-être j'ai des gestes de pardon à poser ? Qu'est-ce qui fait que j'ai des gestes de charité pour ne pas être en retard ? Ou bien des gestes d'audace parce que j'ai, par paresse, j'ai omis de poser un geste de bonté alors que dans mon cœur montait l'intuition de poser ce geste de générosité, de bonté, de gratuité pour créer un lien avec l'autre. Qu'est-ce qui fait, donne-moi ta lumière, Seigneur, dans ce moment de retrait pour pouvoir discerner ce qui n'a pas été super bon pour que je puisse réparer et pour que je puisse être meilleur demain. Et puis, là où j'ai été bon, Seigneur, donne-moi ta joie pour que je rende grâce pour les merveilles que tu as fait en moi, pour ce que je suis aussi, tout simplement, parce que j'ai été bon, donc c'est génial, et je suis ta créature, et merci pour la beauté de cette créature. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir, mais de reconnaître sa dignité aussi de serviteur, et puis quand on est bien aligné, être heureux et dignement fier de ce qu'on a pu réaliser par soi-même, parce qu'on a posé aussi les actes de fidélité envers le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait que demain, parce que j'ai de la gratitude et de la joie dans mon cœur, qu'est-ce qui fait que demain je vais reproduire ces gestes pour m'habituer finalement à cette joie et à cette félicité qui est dans mon cœur et qui me libère encore plus et qui me donne de l'inspiration pour rester sur ce bon couloir, finalement un peu de vertu. Voilà, donc l'examen de conscience, c'est un peu tout cela. C'est un zoom sur nos journées, c'est la contrition de ne pas se rater. On a été trop perso, trop zélé, trop actif, trop passif. Et puis l'action de grâce pour toutes ces passes qui ont été fécondes. Voilà ce petit parallèle entre une vie sportive et chrétienne. Un, je récapitule le repérage. Un, prévisualiser nos journées. Deux, cette mise au vert, prendre du recul, quitter notre environnement pour nous mettre dans un environnement beaucoup plus au calme, pour revenir aux fondamentaux. Et puis 3, l'analyse vidéo et le débriefing, qui est finalement un examen de conscience pour réparer le lendemain. On est toujours tendu vers l'action. Et puis pour rendre grâce et renouveler les bons gestes, la passe juste ou bien le but qu'on pourra marquer, et pour être meilleur, pour mieux transformer le monde. Voilà. Et puis, je vais terminer cette chronique par une petite réflexion aussi sur la victoire et le salut. Parce que toute la vie d'un champion, dès son plus jeune âge, est tournée de façon, et je le dis et je le redis, obsessionnelle, vers la victoire, vers sa présence sur le podium, dans la quête de records, dans le dépassement finalement de ses concurrents, et la célébration de son talent et de son statut finalement de premier parmi les autres, comme un primus inter pares. Le champion aujourd'hui il est programmé nerveusement pour tenir la distance avec endurance, accompagné de ses proches pour déployer son talent en acceptant de nombreux renoncements. Il saura à chaque instant finaliser sa souffrance dans le cadre d'efforts volontaires, des efforts violents ou prolongés, ou bien au gré d'accidents et blessures. Il aura aussi cette résilience d'accepter les accidents et les blessures pour ensuite se remettre en selle et en scène le plus vite possible et le mieux possible. L'apprentissage de la technique se fera le regard constamment tendu vers ses objectifs poursuivis. Un champion est obsessionnel, un peu comme un homme politique. Ce sont ces personnes qui sont un peu à part. Et j'ai tendance à dire, les grands champions, c'est un vrai combat comme les grands serviteurs. On est un tiraillé entre le vice et la vertu, et avec ce risque d'être obsessionnel, paranoïaque, parce qu'il y a un moment une dimension égotique très forte, et puis narcissique. Toujours cet ego où l'ego, il vient aussi de tous ces courtisans qui sont autour de vous et qui vous disent, alors quand ils ne viennent pas vous demander de l'argent, et qui vous disent tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Vous connaissez la phrase du curé d'Ars, un jour il sortait d'une messe, il avait une belle homélie et une femme lui dit oh, « Mon père, votre homélie était merveilleuse » et il regarde la dame et lui dit « Oui, le diable me dit la même chose ». Et donc c'est tous ces courtisans et l'histoire de l'Église nous montre aussi, et c'est le jeu des éditeurs, des journalistes, de créer comme ça des personnalités comme des champions de la foi, et on ne leur rend pas service parce que derrière, il y a l'ego qui va se déployer, et puis au risque de devenir obsessionnel, paranoïaque et narcissique. Et ça touche les champions, ça touche les hommes politiques, ça touche ces personnes qui sont traversées par peut-être une énergie supérieure. Et le risque, c'est qu'à vouloir souvent faire le bien, à cause d'une forme d'hubris, d'une énergie débordante et mal canalisée, à cause aussi beaucoup de l'entourage. Et je repense souvent, le mal, c'est ce qui sort de nous, c'est pas ce qui entre en nous. Donc ce tri a été mal fait, ce discernement a été souvent altéré. Qui veut faire l'ange fait la bête. Et à un moment donné, il y a des ravages qui sont faits, à cause de l'ego, à cause d'une démesure. Et à cause de cette volonté de se faire Dieu à la place de Dieu. Mais en tout cas, voilà, le champion, il saura finaliser sa souffrance dans le cadre de tous ses efforts volontaires et de façon un peu obsessionnelle. Et cette quête, c'est finalement celle, et on voit tous ces champions, c'est celle du podium, c'est celle de la médaille qui révèle en quelque sorte sa domination et sa valeur humaine. Un champion rêve depuis qu'il est tout petit d'être sur le podium. Et c'est aussi l'illusion dans laquelle vont le baigner ses courtisans. Seule la victoire est belle, et ils le disent. Et là, les Jeux Olympiques sont à moins de 100 jours, et un jour on avait interrogé un champion qui avait été quatrième. C'est une discussion que j'avais eue avec Nelson Monfort. Nelson Monfort est ce grand journaliste sportif qui a accompagné près de 16 Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qui a une bienveillance, une joie de vivre, un enthousiasme. Vous savez, l'enthousiasme, c'est le transport divin. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami. Et il a un très beau regard sur l'humanité des champions. Et un jour, il me disait qu'un champion était au pied du podium. Il lui avait dit, mais pendant combien de temps as-tu pensé à cet échec lors des Jeux Olympiques où tu as été quatrième alors que tu aurais pu monter non seulement sur le podium, mais avoir la médaille d'or. Et le champion lui répondait, j'y pense tous les quarts d'heure. Donc il était marqué par cette défaite, qui est aussi le reflet de cette obsession de la victoire. Et on dit souvent, seule la victoire est belle, disent les champions, qui sont aussi saturés de partout. Et je vais terminer par un parallèle assez suggestif, mais on sort de la période pascale. Là, vous avez la vision du podium, et où on voit ces champions avec cette gloire, avec cette puissance. Et finalement, dans la perspective chrétienne, et si le Golgotha ressemblait à une forme de podium, où on a trois hommes livrés au regard de la foule. Mais là, la perspective, elle est inversée. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de gratification publique. Ils ont peut-être, une semaine avant, crié « Hosanna, saint », mais aujourd'hui, ils sont condamnés à mort, ils sont crucifiés. Et en haut, j'oserais dire sur la plus haute marge du podium, le Christ, il est ironiquement couronné. Il n'a rien compris par volontarisme, par renoncement ascétique, hygiénique, il n'y a rien d'obsessionnel en lui dans sa démarche. Il est juste livré et jeté en pâture, vrai homme et vrai Dieu, pour servir et pour servir à la volonté de son Père. « Qui me voit, voit le Père », disait-il. Il rejoint le Christ, notre infinitude, pour l'infinitiser, disait le philosophe paysan Gustave Thibon. Voilà, infinitiser notre finitude, c'est le sacrifice du Christ. Pour avoir prêché, mais réalisé le bien, en parole et en acte, le Christ, en haut de ce podium qu'est le Golgotha, il reçoit l'injure et la barbarie en parole et en acte. Décentré, il n'a jamais cherché la moindre victoire, mais le service et la volonté de ce Père. Et le Christ, il est au sommet de la croix, agonisant, et à ses côtés, il y a le bon larron d'Ismas, qui confesse sa propre culpabilité et qui proclame l'innocence du Christ. Et Dismas est le premier saint, et il est entraîné par le Christ au paradis. Il aura effectué un peu ce qu'on peut appeler la remontada. Il est devenu saint dans le temps additionnel. Et le christianisme, c'est un renversement éminemment subversif. Le Christ est donné et livré, non pas, il est déjà ressuscité quelque part de toute éternité, mais il nous a rejoints en haut de ce podium de notre finitude pour l'infinitiser. Et la victoire du Christ, elle est acquise. Elle est acquise de toute éternité, mais ce n'est pas son souci. Son obsession, par sa mort et dans sa résurrection, c'est mon salut. À moi, aujourd'hui. Mon salut, petit auditeur de Radio Maria, pour que je suive ses pas aujourd'hui et surtout demain. Voilà la fin de cette chronique sur la victoire et le salut. Restons, chers auditeurs de Radio Maria, dans la joie de la résurrection. On se retrouve le mois suivant, toujours sur ce rythme échevelé et joyeux autour de notre amour du sport et de la foi. À très bientôt. Belle semaine à vous.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission « Les Jeux Olympiques et la foi » avec Arnaud Potéon. Notre thème d'aujourd'hui, « Sport et foi, paradoxe et enrichissement ». Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.